C'est François pour Road Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de No Time to Die, que j'ai vu en avant-première. J'étais invité par Jaguar Land Rover Arc de Triomphe et je me suis trouvé deux missions. Vous donner un avis éclairé sur le film et aussi vous raconter les différentes apparitions des Jaguar et Land Rover dans les films de l'espion britannique. Et oui, j'ai regardé pour vous tous les James Bond et j'ai extrait tous les passages où il y a des Land et des Jaguar. Bon, j'ai un peu trissé, j'ai utilisé un super site qui s'appelle IMCDB, enfin, vous retrouverez le détail sur l'article, mais c'est vraiment super à regarder. Donc je vous le dis, tout go, de tout temps et pas seulement depuis que la franchise est copine avec Jaguar Land Rover, la production des films de l'espion aux grands yeux bleus a collé des Landes partout. Ce n'est au fond qu'un juste retour des choses. Pour Land Rover, 007 se promène dans des contrées plus exotiques les unes que les autres, et depuis presque 70 ans, le Land crapahute lui aussi dans le monde entier. Sa simplicité et sa robustesse ont aussi contribué à le retrouver usé jusqu'au trognon de par le monde. Le Def apparaît 11 fois dans les films de James, et c'est Casino Royale qui est le plus gâté dans cette affaire avec 3 apparitions. Et c'est une version très rétro, elle, que l'on retrouve dans You Only Live Twice, Quantum of Solace and The Living Daylight. Mais pour ma part, je le trouve top beau dans Die Another Day, où les méchants ont bien de la chance d'avoir cette vieille version. Il est presque moderne dans World Is Enough, conduit par Pierce, et un peu tapé en version ambulance traînant en arrière-plan du même film. Dans Spectre, il est ultra modifié avec de grandes roues et un châssis surélevé et ultra classe, tout noir, dans Casino Royale. Dans ce même Casino Royale, c'est le modèle en production à l'époque, mais ce sont des méchants qui l'utilisent ce coup-ci. Après avoir parlé de Land classique, nous devons parler du Ranch classique. Et oui, il y en a eu, dont une superbe version cabriolet dans Octopussy. Là encore, dans Living Daylight, le classique retrouve son habitat naturel devant un château so british. Il faut oublier son apparition dans View to a Kill où sa couleur ne lui rend pas vraiment hommage. Et enfin, comment ne pas évoquer le 5 portes noir Beluga, identique au mien, qui finira bien mal dans No Time to Die. Pour les versions suivantes de Range Rover, il faut avouer que c'est un peu le désert. Point de P38, un malheureux L322 dans Die Another Day, et c'est tout. Par contre, on voit beaucoup un Range Sport dans Quantum of Solace, et je ne ferai pas de remarques sur celui qui apparaît dans Casino Royale. À la couleur... enfin bon, j'ai rien à dire, j'adore Range Rover. Côté Jaguar, c'est moins fourni. M roule en XJ dans Spectre, une XJ supercharge d'italienne traverse l'écran dans Casino Royale, où là encore, une S-Type semble perdue en arrière-plan de certaines scènes. And last but not least, comme disent nos amis anglais, c'est dans No Time to Die où nous envoyons une nouvelle, une Jaguar, et elle, que j'aime beaucoup par la finition S-Vert, une XE S-Vert. Voilà, ma transition est évidente pour vous parler de cette avant-première No Time to Die. C'est bien agréable d'arriver devant un cinéma sur les Champs-Elysées et découvrir un des Defenders qui a tourné dans le film posé sur le trottoir de la plus belle avenue du monde. Il a pris cher, mais il roule encore. J'ai vu qu'on le déplaçait sur ses roues. Passage par un photocall à l'entrée, un petit coca, quelques amuse-bouches et l'on rentre dans la salle et dans le vif du sujet. Avant le film lui-même, le public a droit à 2 vidéos en guise de hors-d'œuvre. Le premier est le making-of du record du Range Sport qui grimpe les 999 marches de la Porte du Paradis de Tianen Mountain, carrément sympa. La deuxième est l'histoire personnelle en vidéo du patron d'Arc de Triomphe. C'est assez sobre, classe et touchant, on est dans l'ambiance 007. Je vous préviens tout de suite, ce dernier James Bond n'est pas de la même veine que ses prédécesseurs. C'est le plus long de tous, 2h45. Le rythme est moins emballé que dans les précédents opus et Bond a évolué. Bond a même vieilli, mais il l'assume, il est plus romantique, il exprime sa sensibilité et il picole sacrément. De ce côté-là, ça fait du bien d'être dans un film moins bien pensant que par le passé. Mais rassurez-vous, il y a des choses qui ne changent pas et même qui se renforcent. Il y a de la caisse, de la bagnole, des poursuites et des cascades en moto et en auto. Mais tout cela est redevenu plus réaliste. 007 est moins un super-héros, il est redevenu Bond et je ne vais pas m'en plaindre. Si c'est un Bond un peu différent avec moins d'action outrancière, il y a toujours des Bond Girls. Et celle qui m'a tapé dans l'œil, c'est Ana de Armas qui illumine l'écran. Elle est plus James Bond que le 007 au début du film. Vous comprendrez l'allusion quand vous aurez vu le film. Et vraiment, les caisses dans tout ça, vous me direz, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, le film débute sur un Bond à la retraite, qui vit sur une île de rêve et roule dans un Land 90 rétro de toute beauté. On comprend bien. Le survol de la DB5 semblant surfer sur les petites routes de la montagne grecque nous offre quelques images splendides. Dieu que c'est beau la Grèce et l'Acropole, Dieu que c'est beau une DB5. Notre James Bond retrouve aussi une Aston Martin Vantage V8. Coordonnée à sa couleur de smoking, là aussi la bête est craquante et quand Madeleine, Léa Seydoux, en prend aussi le volant, un grand bonheur visuel nous envahit. Après le luxe, les femmes et les images de cartes postales, je vous rassure, nous avons droit à une poursuite entre la DB5 et les méchants. Ils sont bien équipés, Lancia Thesis, Maserati Quattroporte génération 4 ou 5, enfin celle avec le V6, un peu à l'ancienne, un Range classique que du bon pour tous les fans de l'auto. Et comme il faut bien caser des Land Rover, c'est le nouveau Defender qui s'y colle. Et il a droit à une belle poursuite contre un vieux Toyota Land Cruiser. La lutte est bien inégale, même si c'est James qui pilote le Toy. Et pour finir, on nous montre furtivement, dans l'atelier de Q, une Valkyrie que l'on aurait bien aimé et bien voulu voir rouler avec James au volant. Le générique du début et de fin est un vrai générique à la James Bond, ça là aussi contribue au package global d'un bon 007. Et puis la musique est-elle aussi capitale dans un James Bond ? Tout au long du film, on entend de nombreuses déclinaisons du thème bien connu de James Bond. Et on entend aussi un très beau « Dans la ville endormie » par Dalida, quand la romance prend le pas sur l'action. Et enfin, le film se termine avec la chanson de Louis Armstrong « We have all the time in the world », bande originale de « Au service secret de sa majesté », où déjà Bond perdait la femme qu'il aimait. Vous avez compris, j'ai un petit peu défloré la fin. Ma conclusion est piquée au time. No Time to Die est un film imparfait, mais c'est un final parfait pour le meilleur James Bond de tous les temps.